Père, pour ta parole que tu nous as laissée, tu as dit « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Seigneur, nous voulons prendre ce temps dans le culte que tu nous donnes, que nous voulons t'apporter pour écouter ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles à recevoir ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien, je vais m'adapter à la situation, là. Être souple, je ne vais pas prêcher une heure, mais je vais donner l'essentiel, quitte à revenir sur le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, sur ce qui est important. Alors, je vais commencer, j'aime bien l'interaction avec vous, parce que ça me permet aussi de voir les points sur lesquels il faut insister, sur lesquels il faut passer, parce que c'est pas la peine de rabâcher des choses que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai dessiné là, pour ceux qui voient? Un quoi? Qu'est-ce qu'il indique, le thermomètre? Voilà. Alors, la température. Alors, une question. Quelle est la température d'une bonne santé, quand on est en bonne santé? Alors, je sais que c'est... Les réponses peuvent varier, hein. Oula, alors 38, machin. Alors, on va prendre quelque chose qui est généralement... hein, je ne veux pas que vous me jetiez des pierres après. Admis, c'est 37,5. Voilà. Ouais, je savais que vous n'étiez pas d'accord. Mais c'est ce que j'ai toujours appris. Ma mère m'a dit ça, donc on reste sur ce que ma mère m'a dit. 37,5. C'est vrai que les biologies ne sont pas les mêmes de chacun. Moi je suis frileux, enfin j'ai un sang froid et ma femme a un sang chaud. Alors c'est bien quand on se couche, je peux me réchauffer et elle peut se refroidir. Alors c'est bien, ça fait une bonne température, un bon équilibre. Hein. Mais voilà, comme ça, on n'est pas pareil. 37,5. Ça, c'est la température idéale pour être en bonne santé physique. Et c'est quoi la bonne santé spirituelle? Ah, bien Julie. Psaume. Est-ce que tu peux nous lire, Julie? Psaume. Et les psaumes, c'est un indicateur de bonne température. Alors... Retenez bien ce psaume, ce verset, pardon, 37,5, c'est la température d'une bonne santé spirituelle. Vous ne savez pas ça, Philippe? Ben, c'est bien que tu sois venu ce matin, tu vois. Psaume 37,5. Julie, tu te lèves, tu le déclames à haute voix, c'est bien que tu es à l'arrière, comme ça tout le monde entend. Si possible, parce que tout le monde ne connaît pas l'anglais. Je sais bien qu'on est un église international, mais quand même. Alors je le relis pour vous tous. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Ça ne veut pas dire que que le verset 36,6 n'est pas bon. Hein. On le connaît peut-être plus. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien. Mais psaume 37,5, c'est le psaume d'une bonne santé spirituelle, parce qu'en fait, on n'est pas tourné sur son besoin, on est tourné sur la confiance en Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. Il y en a ce matin qui ont du mal à remettre leur sort à l'Éternel pour différentes raisons. Il y en a peut-être qui ont du mal, on va prier tout à l'heure, oui, mais c'est bien, il faut être honnête, on est dans une famille. Vous savez, l'avantage de l'Église, hein, on a accueilli tout à l'heure une famille, et ça je le tiens de John Wimber, c'est pas de moi, hein. Il nous a beaucoup appris John Wimber, hein. Un bon enseignant, a dit l'Église, dans l'Église, il faut être cool. Et lui était très cool. Hein. Il faut être cool, oui, il faut être cool. Dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Il faut que dans l'Église, on puisse exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer sans jugement. Ni l'un ni l'autre. Hein. Il n'est pas question que les autres ne me jugent pas ou moi je juge. Pas de jugement du tout. C'est-à-dire pas de jugement. C'est-à-dire on s'exprime et on est qui on est. Mais on se laisse corriger. Vous voyez ça, cette deuxième partie, parfois, on n'en veut pas, mais ça fait partie du lot. Dans une famille, on se laisse corriger. Imaginez que les enfants, on ne les corrige jamais. Vous voyez ce que ça donne maintenant dans la société. Hein, les gens se plaignent. La correction fait partie de notre éducation. Et en tant que personne spirituelle, même si on a 70 ans, on a besoin d'être corrigé. Point barre. Il y en a qui sont d'accord ou pas? Vous voyez, déjà, le fait d'être d'accord, ça veut dire, Seigneur, oui, j'accepte ta correction. Mais c'est vrai que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas la correction et ça fait qu'ils ne peuvent jamais grandir. Corrections fait partie de notre apprentissage avec le Seigneur. Donc confie-toi, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui
agira.
C'est lui qui
agira.
Hein? On a toujours tendance au dernier moment de reprendre les rênes en main. Hein? Voyez-vous, Nathalie, elle a attendu le 31 décembre à 20h, j'ai bien entendu. 20h. Il y avait 4h. Parce qu'à la fin de l'année, et Dieu agit. Et ça, c'est la foi jusqu'au bout. Je fais confiance au Seigneur. Je ne reprends pas. Quel est l'homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un roi, qui n'a pas fait ça, et toute sa vie a été catastrophe? C'était qui? C'est Saül. Le roi Saül. Le grand roi Saül, qui a précédé David. Il n'a pas compris cette bonne santé spirituelle. C'est vrai qu'il n'a pas écrit les psaumes. Mais Dieu a retiré sa main de Dieu sur lui. Parce que non seulement il n'a pas attendu le dernier moment que Samuel vienne pour apporter le sacrifice, c'est lui qui a pris les choses en main, mais il est même allé voir une voyante. Il est tombé très bas, très très bas. Et Dieu a dit, je te rejette de la royauté. Tu ne peux pas me servir. Il faut faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Amen. Et même quand les temps sont difficiles, et surtout quand les temps sont difficiles. Amen. C'est lui qui agira. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un deuxième verset de bonne santé spirituelle. Alors, c'est Ézéchiel 37, 14. Non, 37, attendez. 37, 5. Voilà, c'est ça. Ézéchiel 37, 5. C'est toujours la même température. Hein. Ézéchiel 37, 5. Qui est-ce qui l'a trouvé? Oui, tu peux te lever et le lire, s'il te plaît. 37.5.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
Amen. Le Seigneur dit, parle, commande à ses eaux. Est-ce qu'il y en a qui ont des eaux ici? Vous êtes de chair, vous n'êtes pas des esprits. Vous êtes tous, vous avez des os. Mais des os, enfin, quand on dit os, c'est le squelette, c'est la personne. Hein. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Alors, vous vous rappelez quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il a créé des os, un squelette et tout ça, mais il a soufflé son esprit et l'homme, la femme... L'homme a pris vie, ensuite la femme. On a la vie par l'esprit. Sans l'esprit, eh bien c'est la mort, même si pour un temps nous vivons. Mais la mort, elle va inévitablement nous atteindre. Donc nous avons besoin de la vie pour avoir une bonne santé spirituelle. Amen. Donc Dieu parle à ses eaux. Alors est-ce que nous laissons Dieu parler à nos eaux? Est-ce que nous laissons Dieu parler dans notre vie, que son esprit nous parle? Voyez-vous, un des gros problèmes, et j'étais très... Enfin, moi aussi, je voyais la fin de l'année arriver, je dis, oh là 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 là, cette année, c'est la première fois. Je ne sais pas le projet pastoral pour l'année prochaine, je ne sais pas, Seigneur. On n'a plus de récollection, voilà, et je ne savais pas. Et dimanche dernier, paf, Seigneur m'a parlé. Projet pastoral, il est tout trouvé. Et lequel? Le torrent qui purifie. Et Nathalie, quand elle a parlé, et vraiment le Seigneur m'a parlé, et il m'a dit, mais le gros problème, j'aurais dû le savoir, parce que j'ai écrit la vision, et c'est dans la vision, mais bon, j'ai redécouvert la vision, parce que, vous savez, quand on fait quelque chose qui nous dépasse, en fait, c'est comme l'artiste, en fait, il découvre son œuvre. Et c'est vrai que la vision, je l'ai découvert, je dis, mais c'est ça, la vision que Dieu m'a donnée. Qu'a donné à l'Église, c'est qu'en fait, le gros problème du chrétien, au problème des églises en général, c'est quoi? C'est que quand on rencontre le Seigneur, on est tout feu tout flamme. Il y en a qui étaient tout feu tout flamme quand ils ont rencontré le Seigneur. Hein. C'est des instants extraordinaires. Hein. Alors extraordinaire, absolument incroyable. La vie de Dieu qui vient, une lumière extraordinaire, une puissance de vie qui jaillit. Absolument fantastique, en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Et ensuite après, rien. Ça retombe, et il faut continuer la marche chrétienne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est votre vie, vous pouvez le dire. Vous savez tous comment ça se passe. Enfin, pour ceux qui ont vécu quelque chose de très fort. Hein. Ceux qui l'ont vécu moins fort, c'est peut-être moins évident de répondre à cette question. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est peut-être un peu fort, ce que tu exprimes. On n'arrive pas forcément à ça, mais il y a de ça. Alors, quelqu'un d'autre ? Se refroidir, ouais. Rémi, tu voulais dire ? Stabiliser, ouais, ça, c'est déjà bien. On stabilise, mais parfois on régresse, c'est pire. Pardon ? Ouais, et pourquoi on se détourne de lui ? Parce que on manque de la vie de l'esprit. Vous savez, Jésus, quand il a quitté les apôtres, il a dit « Je m'en vais, mais il est bon pour vous que je m'en aille. » Parce que je suis avec vous, d'accord, mais il y en a tout plein qui attendent. Hein. Je ne peux pas être avec tout le monde. Je suis dans mon corps. Le Père a prévu le plan de rédemption pour toute l'humanité. Donc, je vais quitter mon corps, mais je vous enverrai mon esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de vie. Et je vous mettrai en vous mon esprit. Et c'est cet esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Le problème, c'est que quand on se convertit, quand on donne sa vie au Seigneur, on reçoit l'esprit. Mais ensuite, après, on marche par la chair. Pourquoi ? Parce que la chair n'est pas détruite. C'est ça. Le gros problème, c'est que la chair ne se détruit pas comme ça parce qu'on reçoit l'esprit. Alors ? C'est ça le problème. Et Nathalie, quand elle a parlé de ça, justement, elle a présenté ce processus du torrent qui purifie. Il faut rentrer dans le torrent. Et pas une fois. Même les pasteurs, ils doivent rentrer dans le torrent constamment. Ézéchiel, Dieu lui a montré ce torrent. Et au début, il marchait un petit peu, un peu beaucoup, etc., jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Il n'a plus pied, il doit nager dans le torrent. Il faut qu'on arrive à nager dans le torrent et qu'on n'ait plus pied. Parce qu'on compte sur le Seigneur, remet ton sort à... Et il agira. Nous, nous voulons toujours avoir pied. Alors, notre raison veut comprendre les choses, contrôler les choses. Oui, forcément, parce qu'il y a tellement de gens qui contrôlent, on a besoin d'être contrôlé, de contrôler, sinon on est foutu. Mais est-ce que c'est Dieu qui n'est pas capable de contrôler les choses? Même nos plus grands ennemis. Et c'est là notre difficulté. C'est que quand cette révélation de Dieu, de la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit disparaît, parce que on peut pas vivre dans cette révélation en permanence, eh bien nous avons tout naturellement tendance à marcher dans la chair, donc par l'âme. C'est le problème de l'âme. Et pour ça, il faut que l'âme guérisse. Il faut que l'âme soit reconstruite. Il faut que l'âme soit transformée. Il faut que l'âme soit passe par le stade de transformation. Et c'est ça, cleansing stream. C'est ça le fondement du processus. Parce que c'est l'âme, c'est-à-dire nos facultés naturelles que nous avons reçues de Dieu, personnelles, qui font de nous notre personne. Il faut que toute l'âme, sentiment, intelligence, conscience et volonté, soit renouvelée, transformée. Et c'est là le message de Paul dans ses épîtres. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence, Dieu nous la conserve, mais elle doit être transformée par le Saint-Esprit. Elle doit être modifiée par la puissance du Saint-Esprit. Elle doit être orientée selon l'Esprit. Sans l'Esprit, nous sommes morts, même si nous pensons avoir la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Amen. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1er, c'est les visions que Ézéchiel reçoit. Et c'est les mêmes visions que Jean reçoit à Patmos et qui est décrit dans l'Apocalypse. C'est les mêmes visions. Les mêmes visions. La différence, c'est qu'Ézéchiel voit Dieu au centre et Jean voit l'agneau immolé parce qu'on est à la fin de l'histoire de la rédemption et l'agneau a été immolé. Et Jésus-Christ est au centre de ces quatre êtres qui sont des chérubins qui gardent la sainteté de Dieu. Chérubins, que ce soit dans l'Éden ou dans l'Apocalypse, gardent la sainteté de Dieu. Et ces chérubins, eh bien, c'est l'expression du caractère et du ministère de Jésus. Ils sont au nombre de 4. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Les 4 ministères représentent le service, le serviteur. Jésus parfait serviteur, le bœuf. Jésus parfait homme, le seul homme qui jamais a pu obéir à Dieu dans sa volonté parfaite, dans sa parole parfaite. Jésus l'homme parfait, le visage de l'homme. Ensuite, le lion, la force, Aslan. C'est là que C.S. Lewis a tiré son allégorie, Aslan. Quand le lion rugit, tout change, le printemps arrive, la vie arrive, alléluia. Le lion, la force, le roi des animaux, c'est un symbole, mais c'est la force de Jésus. Et enfin, l'aigle. L'aigle qui monte. L'aigle qui a l'œil perçant, qui est au-dessus de tous les oiseaux et qui voit sur la terre avec un œil perçant. C'est Jésus qui règne. Amen. Ces 4 images sont renouvelées dans l'évangile, les 4 évangiles. Marc, qui est le serviteur. Luc, qui est le médecin. Qui est le guérisseur, non, qui est l'homme parfait, pardon. Matthieu, qui est le lion, et Jean, qui est l'aigle. Donc nous retrouvons ces 4 caractères de Jésus qui se retrouvent dans toute l'Écriture, qui sont révélés à Ézéchiel, à Jean, et aux apôtres qui nous ont laissé les évangiles. Ce sont les 4 faces de ces chérubins. Et Dieu veut nous dire quelque chose, et je voudrais juste terminer avec ça. Il veut dire quelque chose à l'église ici. C'est pas l'église d'André Hubert. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis un ministre de culte pour nous conduire dans le culte rendu à Dieu. Mais l'église ici, elle a un appel. Elle a une destinée. Elle a une vocation. Et Dieu veut rappeler ce matin, dans Ézéchiel 37, verset 14, donc nous sommes dans la bonne température, il faut monter un tout petit peu. 37, 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, oracle de l'Éternel. Je vous restaurerai dans votre territoire. Ici, c'est le territoire de Dieu. Ici, c'est un territoire saint. Saint. Dieu l'a choisi. C'est pas nous qui avons choisi cet endroit, c'est Dieu qui l'a choisi. Nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Et Dieu veut faire ici une ville refuge pour les bénédictions de Dieu. Dieu a appelé des Huguenots ici au XVIe siècle. Et celui qui était le plus influent, c'était le bras droit de Calvin, c'était l'évêque Spifane qui était à Tacosta. Et c'est devenu une ville refuge. Personne touché aux chrétiens ici. Ils avaient le respect des chrétiens. Ça s'appelle vous les Huguenots. Et une prophétesse qui est venue ici l'a vue en vision en 1685, le moment où Louis XIV radiait l'édit de Nantes. Elle a entendu des conversations qui se sont faites entre eux au moment où ils ont quitté. Ils sont partis, certains en Nouvelle-Angleterre, on l'a vu vendredi, d'autres, je ne sais pas où ils sont partis, c'était donc d'une trentaine. Ils ont laissé une dernière parole et le Saint-Esprit l'a révélé à cette prophétesse. Ils ont dit, nous, on laisse le bâton, mais quelqu'un va le reprendre. Il va l'amener jusqu'au bout. Et Dieu se souvient des prières. Allô ? Vous croyez que Dieu se souvient des prières ? Et surtout des martyrs, ceux qui ont donné leur sang. Et nous sommes appelés à reprendre le bâton qui a été laissé, à nous battre pour le champ de lentilles que Dieu nous a donné. Il est peut-être petit, mais il faut le battre jusqu'au bout pour que nous puissions restaurer. Dieu veut rétablir sa gloire ici. Amen. Dieu veut rétablir sa gloire. Il veut nous donner le territoire pour que sa gloire se manifeste. Amen. Ce que nous devons faire, c'est la mission d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 17. C'est ce à quoi Ézéchiel était appelé. Et ce à quoi nous sommes appelés, c'était de quoi ? Quelqu'un a une idée ? Quoi notre mission ? C'est d'être une sentinelle, un watcher. Sentinelle. Sentinelle, qu'est-ce qu'est fait la sentinelle?
Elle veille.
Elle regarde. Il n'y a pas que le regard, hein. On ne veille pas que avec le regard. Elle écoute. Écoute. Écoutez. Écoutez les bruits. Elle écoute. Et il y a même des sentinelles. Moi, je n'ai pas été à l'armée, j'étais antimilitariste. J'ai échappé à ça. Mais il y en a qui faisaient le tour de garde à l'armée. Ils disaient qu'ils dormaient, mais ils entendaient. Vous avez déjà entendu ça? Pardon? Non, non, mais même quand ils dormaient, parce qu'ils étaient de veille à 4h du matin, enfin, ils faisaient la nuit, ils entendaient les parents. Voilà, les parents des nouveaux. Ils dorment et ils veillent. Vous voyez, l'écoute, c'est incroyable, hein, ce que vous pouvez être capable. Parce que vous pouvez vous programmer, bon, là, je ne suis pas médecin, mais je pense que, enfin, moi, je suis comme ça, des fois, je me programme, et j'entends des choses parce que le cerveau a dit, attention à tel bruit, et tu entends, et tu te réveilles quand le bruit est là, vous voyez. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a une capacité d'écoute plus grande que la vue. La preuve, c'est qu'il y a des aveugles, hein, qui, par l'écoute, sont très sensibles. Donc, Ézéchiel, je termine là-dessus, chapitre 3, verset 17, il a dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Nous avons la nécessité d'avertir. Attention, il y a un danger. Attention, il y a ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, parfois, certains chrétiens pensent avertir, c'est parler de l'enfer, c'est faire peur aux gens. Attention, ça, c'est pas de nature à attirer les gens. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est jamais marqué la sévérité de Dieu nous pousse à la repentance. Au Moyen-Âge, vous savez, l'Église pensait, ils ont dessiné plein d'enfers, de démons, de choses horribles avec des flammes, tout ça. Bon, c'était du contrôle, ça. C'était pas la bonne nouvelle, ça. C'était du contrôle, ça. C'est faire peur aux gens. Ça, c'est du contrôle. Ça, c'est charnel. C'est pas la Bible. La Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Vous voyez, moi, j'ai été frappé par le témoignage de Colson, qui était le bras droit de Nixon. Et quand il s'est converti dans sa cellule de prison, à cause du Watergate, il écrit dans ses mémoires, c'est la bonté de Dieu qui m'a poussé à la repentance. C'est parce que Dieu était bon avec moi, alors que moi, j'étais méchant, j'étais mauvais, j'étais nul, j'ai fait des choses horribles. Et Dieu était bon avec moi. Et c'est la bonté, c'est cet écart qui est entre nous et la bonté de Dieu qui nous fait venir à lui et nous jeter dans ses bras. Donc nous, nous devons faire pareil. Voyez-vous, une fête de Thanksgiving, pour moi, c'est de l'évangélisation de bonté. Mais on n'a pas besoin de harceler les gens avec un tas de choses. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et ces gens-là, s'ils cherchent Dieu, ils vont dire... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? C'est là qu'on peut répondre aux questions. On ne peut pas répondre aux questions qui ne se posent pas, qui se posent des questions. Et ensuite, vous apportez une réponse, vous remplissez un verre qui est vide. Vous avez déjà essayé de remplir un verre qui est plein? Hein, ça déborde, ça fait... Non, vous attendez que le verre se vide, et ah, tu veux un petit peu de Bordeaux? Et tiens, je t'enfile là. Ah, oh, c'est délicieux. Bah oui, s'il laisse du vin, de l'eau dedans, vous ne pouvez pas le remplir. Okay. Donc, faites en sorte que les gens vident leur verre, hein, qu'ils se disent « Ah, oh, j'ai envie de ce vin !» Et après, vous dites « Ben voilà, tiens, le vin, il est là. Tu peux le prendre. » Hello ? Les sentinelles. Soyons des sentinelles, et je termine là. J'ai déjà débordé. Pour dire que le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans le torrent qui purifie, c'est Ézéchiel 47.1. Ézéchiel 47.1, Apocalypse 22, dans le torrent. Le torrent. Rentrons dans le torrent. Ne restons pas sur des choses, maîtrisons, non. Rentrons dans le torrent de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous veux en bonne santé spirituelle. Et Seigneur, ta parole nous le rappelle dans Psaume ou dans Ézéchiel 37.5, que Seigneur, c'est par ton esprit que nous pouvons être vivifiés, que nous pouvons être transformés. Et nous ne voulons pas laisser ton esprit, Seigneur, parce qu'un jour nous l'avons rencontré, nous avons besoin de plus de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans le torrent, dans ce torrent de vie, Seigneur, qui coule de ton temple, de ton sanctuaire, et fais-nous, Seigneur, aide-nous à nager, Seigneur, c'est vrai. Même s'il n'y a pas de maître nageur, Seigneur, toi, tu es maître nageur. Nous n'allons pas couler, Seigneur, nous allons nous purifier. Alors, Seigneur, merci de ce que tu fais monter l'eau du torrent dans cette église pour que nous puissions être des instruments de bénédiction et de vie pour tous ceux qui te cherchent. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.